Chapitre 109. Le pacte. Axel ouvre la pochette en cuir sur la table. Elle contient tous les documents nécessaires pour permettre au porte-conteneur MS Icelus de quitter le port de Göteborg avec sa cargaison de munitions. La seule chose qui manque est sa signature. Peter, le fils de Raphaël Guidi, entre dans la pièce le visage blafard et inexpressif. Il tient un très beau violon et Axel voit immédiatement qu'il s'agit d'un amati, très bien entretenu.
Comme je pense l'avoir mentionné, je trouve qu'une certaine musique sied bien avec ce que nous nous apprêtons à faire, dit Raphaël. Ce violon appartenait à sa mère, et bien avant cela, Niccolo Paganini en jouait.
Il a été fabriqué en 1657, dit Peter en sortant ses clés et son portable de sa poche pour les poser sur la table. Il cale ensuite le violon contre son épaule. Le garçon place l'archet sur les cordes et commence à jouer, quelque peu hésitant.
Axel reconnaît aussitôt les premières notes de l'œuvre la plus connue de Paganini, les 24 caprices, considérés comme les morceaux les plus difficiles à jouer au monde. Le garçon joue comme s'il était sous l'eau. Le tempo est bien trop lent.
« C'est un pacte avantageux, » dit Raphaël à voix basse.
Dehors, il fait encore jour. Les grandes fenêtres projettent une lueur grise dans la pièce. Axel pense à Beverly, lorsqu'elle avait grimpé dans son lit, à la clinique psychiatrique en chuchotant
« Une lueur t'entoure. Je l'ai vue depuis le couloir. »
« Vous avez fini de réfléchir ?» demande Raphaël.
Axel ne supporte pas de regarder les yeux vides de Raphaël. Il détourne la tête et prend le stylo posé devant lui. Il entend les pulsations de son cœur résonner dans ses tempes et il tente de masquer le rythme saccadé de sa respiration. Cette fois, il ne dessinera pas de petit bonhomme. Il signera de son propre nom, en priant Dieu pour que Raphaël Guidi s'en contente et le laisse retourner en Suède. Axel sent le stylo trembler dans sa main. Il pose son autre main sur son poignet pour la stabiliser, inspire profondément et approche lentement le stylo jusqu'à la ligne vide.
« Attendez !» dit Raphaël. « Avant de signer quoi que ce soit, je veux savoir si vous comptez être loyal. »
Axel lève la tête et croise son regard.
« Si vous êtes vraiment prêt à affronter votre cauchemar en cas de rupture du pacte, vous devez le prouver en embrassant ma main. »«
Comment ça ?» chuchote Axel.
« Allons-nous conclure un pacte ?»«
Oui. »«
Embrassez ma main, » dit Raphaël d'une voix dénaturée, comme s'il jouait l'idiot dans une vieille pièce de théâtre.
Le fils de Raphaël joue de plus en plus lentement. Il tente de faire obéir ses doigts, de changer de prise, mais continue de se tromper dans les passages difficiles. Il balbutie et finit par abandonner.
« Continue !» dit Raphaël sans le regarder.
« C'est trop dur pour moi, ça ne sonne pas bien. »«
Peter, c'est médiocre d'abandonner avant même d'avoir... »«
Joue-le toi-même »
l'interrompt-il. Le visage de Raphaël se ferme soudain. Il semble figé comme une roche poussiéreuse.
« Tu fais ce que je te dis !»
lance-t-il d'une voix tendue. Le garçon reste immobile, la tête baissée. La main de Raphaël monte doucement jusqu'à la fermeture éclair de son survêtement.
« Peter, j'ai trouvé que ça sonnait bien !»
dit-il calmement. « Le chevalet est de travers !» dit Axel tout bas. Peter regarde le violon et rougit.
« C'est possible de le réparer ?»«
C'est facile à ajuster. » « Je peux le faire si tu veux, » dit Axel.
« Ça prend longtemps ?» demande Raphaël.
« Non. » Il pose le stylo, prend le violon, le retourne en prenant conscience de la légèreté de l'instrument. Il n'avait jamais touché un amati auparavant, et encore moins un sur lequel avait joué Paganini. Le téléphone de Raphaël Guidi sonne. Il le regarde, se lève et s'éloigne un peu.
« C'est impossible !»
dit-il avec une expression étrange. Un sourire étonné se dessine sur ses lèvres, puis il dit quelque chose d'une voix tendue au garde du corps. Il quitte la pièce et monte en hâte l'escalier avec Raphaël. Peter observe Axel pendant qu'il détend les cordes. L'instrument grince. Le bruit sec de ses doigts est amplifié par la caisse de résonance. Axel remonte délicatement le chevalet et retend ensuite les cordes par-dessus.
« Ça s'est bien passé ?» chuchote Peter.
« Oui, » répond Axel tout en accordant le violon.
« Essaye et tu verras. »«
Merci, »
dit Peter en récupérant le violon. Axel voit que le portable de Peter est sur la table et dit « Continue de jouer. Tu venais de faire la première roulade et tu entrais dans le passage pizzicato. »
« Maintenant je suis gêné, »
dit Peter en se détournant. Axel se penche vers la table, tend délicatement la main, atteint le portable du bout des doigts, lui donne une pichenette maladroite et le téléphone pivote une fois sur lui-même. Toujours de dos, Peter pose le violon contre son épaule et prend l'archet. Axel prend le téléphone, le garde au creux de sa main et se décale légèrement. Peter baisse l'archet vers les cordes, mais s'interrompt, se retourne et tente de regarder derrière Axel.
« Mon téléphone, » dit-il, « il est derrière vous ?»
Axel laisse le téléphone glisser de sa main sur la table avant de se retourner et de le ramasser.
« Vous pouvez voir si j'ai reçu un message ?»
demande Peter. Axel regarde le téléphone et constate que le réseau est excellent, bien qu'il soit en pleine mer. Le bateau doit être équipé d'une connexion satellite.
« Pas de message, » dit-il en reposant le téléphone sur la table.
« Merci. »
Axel reste penché sur la table pendant que Peter continue à jouer les 24 caprices, lentement et de plus en plus hors tempo. Peter n'est pas doué, il a beaucoup répété, mais il ne maîtrise absolument pas le morceau. Pourtant, le son du violon est si merveilleux qu'Axel aurait apprécié même si un enfant tripotait les cordes. Il s'incline un peu plus vers la table et écoute en tentant d'atteindre le téléphone. Peter lutte pour trouver le bon emplacement ou pincer les cordes, mais il perd le rythme, s'interrompt et recommence. Axel se décale lentement sur le côté, mais n'a pas le temps d'attraper le téléphone, car Peter, qui joue de plus en plus faux, s'arrête et se retourne vers Axel.
« C'est très dur, »
dit-il en faisant une autre tentative. Il recommence, mais se trompe encore.
« C'est impossible, »
dit-il en baissant le violon. Si tu gardes l'annulaire sur la corde là, c'est plus facile d'avoir le temps de...
Vous pouvez me montrer ?
Axel regarde le téléphone sur la table. Un reflet scintille à l'extérieur et Axel tourne son regard vers les fenêtres. La mer est étrangement lisse. Un grondement monte de la salle des machines, un roulement continu qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Peter lui donne le violon et Axel le pose contre son épaule. Serre un peu plus les cordes et commence à jouer le morceau. Le début mélancolique semble se propager dans la pièce. Les notes du violon ne sont pas puissantes, mais merveilleusement douces et pures. La musique de Paganini déferle de plus en plus rapide et puissante.
« Mon Dieu !»
chuchote Peter. Le tempo se fait soudain beaucoup plus rapide, prestissimo. C'est magnifique et très enjoué. La mélodie est portée par des changements de prise soudains et des sauts incroyables entre les octaves. Axel a toute la musique dans la tête et n'a qu'à laisser libre cours à ses mains. Toutes les notes ne sont pas parfaites, mais ses doigts semblent voler sur le manche en parcourant le bois et les cordes. Raphaël crie quelque chose depuis la passerelle et on entend un choc violent qui fait teinter le lustre en cristal. Axel continue de jouer. Les roulades claires semblent scintiller comme le soleil sur l'eau douce. Des pas résonnent soudain dans l'escalier, et Axel s'arrête net de jouer lorsqu'il voit Raphaël avec le visage luisant de sueur et un couteau militaire ensanglanté dans la main. À ses côtés, le garde du corps aux cheveux gris tient un fusil d'assaut jaune-vert, un FN Scar belge.